Shalom tout le monde. Voilà. Quoi ? Ouais. Il y a un traité dans le Talmud qui s'appelle le traité de Souka, qui traite de Soukot. Très bien. Bon, dans la fête de Soukot, vous avez deux types essentiels de mitzvot, indépendamment des mitzvot particulières du Beit HaMikdash, telles que les oblations d'eau, le Nisuch HaMaim, ainsi que les sacrifices supplémentaires, les moussafim, oui. Oblation. Je me suis trompé, c'est une libation. Une libation, pardon. Ouais. Ouais, l'oblation, c'est autre chose. C'est un verset. Alors, on verse de l'eau, des libations d'eau sur l'autel. Et il y a évidemment le corban moussaf, qui est fait des 70 taureaux. Il y a également le fait de la Simchat Beit HaShoeva, la grande joie qui se faisait dans le Beit HaMikdash, on en a parlé de ça. Et il y a des mitzvot qui concernent chacun d'entre nous, qui sont essentiellement les deux, la Souka et le Lulav. D'accord ? Il y a la mitzvah de résider dans une Souka, et il y a la mitzvah d'agiter le Lulav. Voilà. Ces deux mitzvot, en fait, sont très différentes dans leur nature, ne serait-ce que du point de vue de la Halakha. La Souka n'est pas censé m'appartenir. Je peux rentrer dans n'importe quel souka, évidemment, si je suis... Quoi ? Ah, une petite remarque technique. Il y a un des spectateurs de nos entretiens qui a envoyé un mail outragé au Machon Meir, disant comment le Rav Cherki dit « Comment ? Quoi encore ?» Comme ça, il n'a pas de patience pour les élèves. Je trouve ça extrêmement choquant, etc., etc. Alors, je ferai remarquer à la personne bien intentionnée qui a envoyé ce mail que c'est une question de sens de l'humour. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais les élèves qui sont ici présents, eux, ont le sens de l'humour et comprennent très bien le contexte dans lequel ces remarques lapidaires sont faites. Donc, je tiens quand même à présenter ma remarque. Je ne vais pas dire des excuses, parce que ce n'est pas des excuses. Il faut comprendre, je dis à ce cher ou cette chère téléspectatrice ou téléspectateur, qu'il faut prendre les choses avec proportion. Vous n'avez qu'à voir, on peut demander le témoignage de tous les élèves, y compris ceux que j'ai engueulés, combien ils ont de plaisir à entendre ces boutades. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait ? Comment ? On est ressorti que plus fort. Voilà, voilà. Bon. Ben non, c'est toujours le jeudi, nous étudions les fêtes, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, donc il y a la souka et le loulav. Alors la différence fondamentale du point de vue de la halakha entre la souka et le loulav, c'est que la souka est un lieu d'habitation qui n'est pas censé m'appartenir. C'est-à-dire, je peux très bien rentrer dans la souka d'un ami, évidemment, si j'y suis autorisé, et je m'acquitte de mon devoir d'habiter dans la souka. Par contre, le loulav, ainsi que les quatre espèces, doit m'appartenir en propre. Je dois l'avoir payé. Enfin, je dois en faire, en tout cas, en avoir fait l'acquisition. Ça doit m'appartenir. Donc, il y a ici deux modes très différents de relation à la sainteté de la mitzvah. Il y a une mitzvah qui m'est octroyée, on peut dire de certaine manière gratuite, c'est-à-dire je peux très bien n'avoir fait aucun effort pour faire la souka avant la fête, et je m'acquitte de mon devoir, tandis que pour ce qui est du loulav, je dois faire l'effort de l'acquisition. Voilà, c'est très différent. Parce que la Torah dit, « Ulkartem lachem », vous prendrez pour vous les quatre espèces, et là-bas, pour vous, la Gemara interprète, « Michel lachem », ça doit vous appartenir. Quoi ? Oui, alors se faire offrir un loulav, tu as fait l'effort de l'acquisition. Oui, c'est l'effort, il faut comprendre, il y a l'effort du consentement. Il y a, par exemple, il y a des choses pour lesquelles on a acquisition sans consentement. Par exemple, un héritage. Par exemple, quelqu'un se réveille le matin, on lui dit, voilà, ta grand-mère, la grand-mère de ta cousine, en Australie, vient de mourir à minuit, et tu as hérité de son ranch. Qui vaut 3 millions d'euros. Ah, extraordinaire. D'accord ? Ah, à part ça, après minuit, avant que tu te réveilles, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures, tes taureaux ont fait des grands dommages au ranch du voisin, ça va te coûter 300 000 euros. Ah, mais pas question, je ne veux pas. Non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce que l'héritage est quelque chose qui m'est imposé. C'est une acquisition qui me vient sans ma volonté. Par contre, si quelqu'un m'offre un objet, si je refuse de le recevoir, il n'est pas à moi. Donc il y a déjà eu un mouvement de ma part, le mouvement d'accepter le don. D'accord ? Oui. Tu disais ?
Pas encore. Allez.
Oui. Alors justement, ça c'est l'oulap des associés. Non, ça marche pas. Il faut que l'oulap soit entièrement à toi. Oui.
Une question pour faire, c'est quoi les quatre espèces ? Étrog, l'oulap.
Pourquoi tu demandes c'est quoi les quatre espèces alors que tu en as déjà dit deux ?
Alors c'est quoi les deux autres espèces que je connais pas sur les quatre ?
Ben la myrte et le saule. N'est-ce pas ? La myrte et le saule. Myrte en hébreu, hadas. Le saule, arava. Non, pas le saule pleureur. Le saule pleureur n'est pas bon pour le pour Soukhot, mais le saule, pas pleureur, ça marche.
Comment ?
On doit acheter les quatre espèces, ou en tout cas, en avoir l'acquisition. Quelqu'un peut te le donner, par exemple.
On peut le cueillir,
c'est dur. Comment le cueillir ? Ben, il doit toujours être cueilli. Le trouver dans la nature, dans un terrain qui n'appartient à personne, oui, ça peut se faire. Oui. C'est toujours sympa de s'investir dans une mitzvah, hercher mitzvah, etc. C'est très bien. D'ailleurs, il y a même une coutume qui est de commencer la soukha juste à la sortie de Kippour. Il y a tout ça, c'est très bien. Il y a même, d'après le Talmud de Jérusalem, on fait la bracha pour la construction de la soukha. Parce que d'après le Talmud de Jérusalem, on fait une bracha même pour ce qui est hercher mitzvah, ce qui entraîne une mitzvah. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha est comme le Bavli qui dit qu'on ne fait pas de bracha pour ça. Absolument. Absolument, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, si personne ne fait la soukha, alors il n'y aura pas de soukha. Donc il y a une notion collective. Mais imagine que par exemple un goy ait fait la soukha, et puis après il l'abandonne. Tu peux t'acquitter de la mitsa de soukha là-dedans aussi.
C'est avec
Shira. Avec Shira, d'accord. Donc c'est pas forcément la collectivité d'Israël, c'est ce que je veux dire. Bon, maintenant, ça correspond à deux manières d'appréhender la sainteté. L'une que. Alors là, je vais employer des notions kabbalistiques. Deux termes kabbalistiques. L'un qu'on appelle Or Makif et l'autre qu'on appelle Or Penimi. Or Makif, c'est la lumière entourante. Et Or Penimi, c'est la lumière intérieure. C'est quoi la différence ? La lumière intérieure, ce qu'on appelle Or Penimi, c'est quelque chose qui vient comme fruit de mes efforts. C'est-à-dire, si j'ai fait l'effort, il y a Or Penimi, s'il n'y a pas. Si je n'ai pas fait d'effort, il n'y a pas de Or Penimi. Ça correspond donc aux quatre espèces qui doivent être à moi. Par contre, la soukha, ça correspond à ce qu'on appelle Or Makif. C'est quelque chose qui m'est donné, on peut dire, de manière gratuite ou gracieuse. Ça ressemble d'ailleurs au mot, au verbe Makif qui veut dire prêter à intérêt. Achenvani, à crédit. Vendre à crédit. C'est-à-dire, quelqu'un veut acheter quelque chose, il n'a pas d'argent, mais on sait qu'il l'aura un jour. Alors, sur le compte de l'avenir, on lui donne déjà maintenant ce qu'il méritera un jour. Ça s'appelle Or Makif. D'accord ? Il en est de même pour la soukha. La soukha représente une dimension de l'être d'Israël qui n'est pas encore intégrée en nous. Et donc, qui correspond à l'avenir. C'est-à-dire, quand j'agite les quatre espèces, j'exprime la capacité de sainteté que j'acquiers déjà dans le présent. Et la soukha m'introduit un peu, si vous voulez, dans le olam haba, dans le monde à venir. Voilà. Ça explique pourquoi la soukha a cet aspect précaire. C'est une habitation qui n'est pas fixe. Parce qu'on n'a pas de fixité dans le olam haba. Hein ? On a 7 jours quoi ? Au maximum aussi. On a 7 jours de soukha. Pendant ces 7 jours, on est dans une atmosphère extérieure à ce monde. C'est-à-dire, pour jouir de cette dimension-là, il faut faire quand même un effort qui est de sortir de la maison. C'est-à-dire, je suis jeté en dehors de chez moi pendant 7 jours, je fais la fête, c'est très bien, c'est très beau, mais je ne suis pas à la maison. Parce que ma maison, c'est le Olam Hazé, et je veux jouir du Olam Haba. Donc, il y a dans la soukha quelque chose qui appartient à l'avenir. Voilà. Oui.
Dormir à moitié dans les airs, pas en volant.
Est-ce qu'on peut dormir dans un hamac dans la souka? Une question. Comment?
Bon.
J'aimerais bien pouvoir répondre. Moi aussi j'ai le droit de dire quelque chose ici. La réponse est oui, on peut dormir dans un hamac. Pourquoi on n'a pas le droit de faire de nuit? Pas pendant Yom Tov et pendant Shabbat. Mais si tu as fait pendant un jour de Chol, il n'y a pas de problème. Tu fais des nœuds. Voilà. Et tu dors dans un hamac. Classe, super. D'accord. Quoi, tu as un hamac? Oui. Et tu as une souka? Parce qu'il faut que ça tienne aussi. Tu sais, la souka, c'est pas toujours très solide.
Ouais.
Enfin, donc. Bon. Là-dessus se pose une question d'interprétation du texte de la Mishnah. Je vous lis ici la première Mishnah du traité de Souka. Voilà comment ça commence. C'est fini là-bas? Souka shei gevoa le ma'ala me'esrim ama. Une souka qui est plus haute que 20 coudées. C'est combien 20 coudées? Hein? 9 mètres 60. D'accord? Donc, souka shi'igevoa les mains à la misriama. C'est une souka qui a une hauteur supérieure à 20 coudées. Pesula, elle est disqualifiée. Elle n'est pas valable. Verabi Yehuda, marchir. Mais Rabbi Yehuda, lui, il l'autorise.
Pourquoi
est-ce qu'il l'autorise? Pourquoi l'interdire? C'est-à-dire, un grand principe dans la halakha, c'est que pour interdire quelque chose, il faut une preuve. Pour autoriser quelque chose, tu n'as pas besoin de preuve. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de couper un concombre en quatre?
Oui.
Pourquoi? Pourquoi c'est permis?
Il n'y a rien qui l'interdit.
Il n'y a rien qui l'interdit, c'est très bien. C'est-à-dire, mais si quelqu'un te dit c'est interdit, tu diras, mais pourquoi? D'accord? C'est-à-dire, si quelqu'un interdit la souka qui est plus haute que 20 coudées, c'est lui qui doit se justifier. Celui qui l'autorise, il n'y a pas de problème.
C'est pas écrit.
Ben, c'est pas Rabbi Yehuda. C'est le Tanakh Kama, c'est-à-dire le premier sage. Dans la Mishnah, pourquoi il l'interdit? Ah, très bonne question. Nous avons à ce propos trois interprétations différentes dans la Gemara. Ben, non, Rabbi Yehuda, il autorise.
Oui, mais
celui qui interdit, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom. Enfin, ça veut donc dire que c'est l'opinion dominante. C'est-à-dire, quand on ne dit pas le nom du sage dans la Mishnah, c'est parce que c'est l'opinion majoritaire. Donc elle est attribuée à l'ensemble des Chachamim, tandis que Rabbi Yehuda, lui, apparaît comme étant un individu isolé. Donc, Souka, Sheigivoa, Emma, Israël, Pesou, Rabbi Yehuda, Marchir, nous allons devoir donc comprendre d'abord pourquoi est-ce que les sages, les Chachamim, ont interdit la Souka de plus de 20 amas. Après, on devra se poser la question, mais alors s'ils ont des preuves, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda lui autorise? Qu'est-ce qu'il n'acceptait pas dans leurs preuves? D'accord? Bon. Alors nous avons ici trois opinions dans la Gemara pour comprendre l'opinion des Chachamim. Alors je vous lis ici le texte. Mina hane mile. D'où est-ce qu'on a été chercher tout ça? Alors vous avez l'opinion de Rabba, l'opinion de Rabbi Zera et l'opinion de Rava. Rabba, Rabbi Zera, Rava. Rabba, ça s'écrit Resh, Bet, He. Rava, ça s'écrit Resh, Bet, Aleph. En fait, c'est faux, mais c'est une convention qui est utilisée dans les yeshivot pour faire la différence entre les deux. D'accord? En fait, les deux s'appellent aussi bien Rabba que Rava, un avec un Aleph et l'autre avec un He. Mais pour faire la différence, celui qui a un « et », on met un « dagesh » dans le « bet », donc il s'appelle « rabba ». Celui qui a fini par un « aleph », on ne lui met pas de « dagesh » dans le « vet », et donc il s'appelle « rabba ». D'accord? Donc vous avez trois opinions, « rabba », « rabbi zera », « rabba ». Alors l'opinion de Rabbi Zera, c'est la suivante. « De'amar kera », le verset nous dit « Les ma'an yedi'ou dorotechem ki basukot o shavti et b'nei Israël » afin que vos générations sachent que j'ai installé dans des cabanes les enfants d'Israël.
Pourquoi?
afin que vos générations sachent que j'ai installé dans les cabanes les enfants d'Israël. D'accord ? C'est dans la dans le livre de Vaïkra, lorsque la Torah nous donne la mitzvah de résider dans la soukha, eh bien elle nous dit, afin que vos générations sachent que j'ai installé les enfants d'Israël dans des cabanes en les faisant sortir d'Égypte. Alors, Rabba comprend que, afin que vos générations sachent, c'est en ça, en soi-même, une halakha. C'est quoi? Et donc, la halakha est qu'il faut savoir. Il faut savoir quoi? Eh bien, il faut savoir qu'on réside dans une soukha. Si je rentre, par exemple, dans un lieu fermé, et que je ne vois pas le plafond, je ne sais pas si c'est une soukha ou pas. C'est-à-dire comment ça? Le plafond est très haut. Pourquoi est-ce qu'il... Et donc, la tendance naturelle de quelqu'un quand on rentre quelque part, c'est pas de lever la tête pour regarder le plafond. En général, on voit devant soi. Alors, si le plafond est assez bas, on se rend compte. Si c'est très haut, on ne sait pas. Alors, c'est ce que dit ici la Gemara. Ad esrim ama, jusqu'à 20 coudées, adam yodea shudar besuka. Un homme sait qu'il habite dans une soukha. Les mains, la meisri mama, mais plus de 20 coudées, en adam yodea shedar besuka. L'homme ne sait pas qu'il réside dans une soukha, mishum de la shaltabeaina, parce que les yeux ne regardent pas le plafond. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir, mais il faudrait lever la tête, et ce n'est pas une tendance naturelle. D'accord ? Alors vous n'avez qu'à voir la soukha de la municipalité de Jérusalem, elle est gigantesque. Vous pouvez y aller, mais elle ne la fait pas. Alors, il y a un plafond très haut, elle est très très grande, elle est à côté de la municipalité, de la mairie, mais ce n'est pas 9,60 m quand même.
Mais elle
est tellement longue, au final, sans lever la tête. Oui, alors, il y a des discussions là-dessus dans la halakha. Est-ce que c'est une question de proportion, etc. Et donc, pour Rabba, il faut savoir qu'on est dans une soukha. D'où est-ce qu'il sait ça? Parce que le verset nous dit, afin que vous sachiez que je vous ai fait mettre, que je vous ai installé dans la soukha en vous faisant sortir d'Égypte. C'est-à-dire la référence, d'après Rabba, c'est un événement du passé. C'est l'événement du passé qui implique la halakha. Rabbi Zera, lui, il n'est pas d'accord, il dit autre chose. Rabbi Zera amar me'acha. Rabbi Zera a tiré ça d'un verset d'Isaïe, chapitre 4. Isaïe en hébreu? Yeshayahu. Yeshayahu. En anglais, Isaiah. D'accord? Vesuka tihye letzel yomam mehorev. La soukha se donnera l'ombre pendant la journée contre la chaleur. Donc la soukha est faite pour donner de l'ombre. Ad estri mama adam yoshev betzel soukha, jusqu'à 20 coudées. On est installé à l'ombre de la soukha, c'est-à-dire du srach, du plafond. Les mains là, mais esrimama, mais au-delà de 20 coudées, en adam yodea, en adam yoshev betzel soukha, et la betzel des fanotes. On n'est plus installé à l'ombre de la soukha, mais à l'ombre des parois. D'accord ?
Donc lui, il est d'accord.
Rabbi Zera, il donne une autre interprétation de la halakha. Au-delà, non. Pourquoi? C'est une question d'ombre. D'où est-ce qu'il a tiré que la soukha devait donner de l'ombre? D'un verset de Yeshayahu. Qui parle de quoi? Qui parle du Olam Haba. C'est-à-dire que l'ombre en question, c'est l'ombre bienfaisante dans le Gan Eden. Et donc, Rabbi Zera a pour référence de sa halakha un événement de l'avenir, du futur. Alors, Rabba se réfère au passé. Et Rabbi Zera à l'avenir. Verava amar me'acha. Et Rava, lui, il n'est pas d'accord non plus. Il donne une troisième interprétation. Basukot techevu shivat yamim. Il dit, vous serez installé dans la soukha pendant 7 jours. Ça veut dire quoi, soukha? Soukha veut dire, par définition pour Rava, une habitation précaire. Ad. Amra Torah, la Torah nous a dit, Kol Shivat Hayamim Tsemidirat Keva Veshev Bedirat Arai, pendant 7 jours, la Torah nous dit de sortir de son habitation fixe pour s'installer dans une habitation temporaire. Adesrim Ama Adam Ose Dirato Dirat Arai, les Malam Esrim Ama Adam Ose Dirato Dirat Arai, la Dirat Keva, jusqu'à 20 coudées. on est prêt à investir dans une habitation temporaire, mais si c'est plus de 20 coudées, on investit que si c'est une habitation fixe. C'est-à-dire, ce qui est important pour Rava, c'est la précarité. Et donc, Rava se réfère à un événement du présent. La preuve, c'est que c'est par élimination. Puisque Rabba parle du passé, Rabbi Zera de l'avenir, il ne reste à Rava que le présent. Elle soit précaire, elle soit l'illustration de ce qu'est véritablement le Olam Hazeh. Or, le Olam Hazeh, c'est du précaire, c'est rien de fixe. Bon, parfois, on a l'illusion qu'on vit dans un monde fixe, mais en vérité, c'est un monde momentané. Viendra un jour où nous quitterons ce monde. Et donc, sur le Olam Hazeh, c'est pas très sérieux. La soukha doit ressembler au Olam Hazeh. Vous avez compris? Bon. Oui. Si. Pourquoi non? Mais ça, c'est Rabbi Zera. Et ici, trois opinions. C'est-à-dire que si Rava disait la même chose que Rabbi Zera et après qu'on disait le contraire, évidemment, il y aurait question. Mais étant donné que l'un c'est Rabbi Zera et l'autre c'est Rava, et d'après les connaissances historiques que nous avons, Rava n'est pas Rabbi Zera, donc la question n'est pas problème, elle ne se pose pas. Ce sont deux opinions différentes. Donc, la halakha qui dit que la soukha doit être moins haute que 20 coudées, a son origine soit dans l'avenir, soit dans le passé, soit dans le présent. Selon qu'on est comme Rava, Rabbi Zera ou Rabba. Maintenant, bon, tout cela est bien connu. C'est-à-dire qu'en fait, la soukha nous demande de sortir de notre occupation, de notre fixité. Par exemple, vous avez dans le livre de Bereshit, Vayeler Esav Ledarko Bayomahu Se'ira. Esaü partit en ce jour dans son chemin vers Se'ir. C'est quoi ça? C'est la préfiguration historique du bouc émissaire. Se'ir, ça veut dire la montagne de Se'ir, mais ça veut dire également le bouc. Le bouc, on l'a envoyé quand? À Kippour, n'est-ce pas? Donc, en ayant renvoyé le bouc à Kippour, on s'est libéré du péché. Donc, on est dans un état angélique, on peut rentrer dans le Olam Haba. N'est-ce pas? Donc, Vayeler Esa Bayom Aoule Darko Seira, Esaü partit en ce jour dans son chemin à Seir. Et la suite, c'est quoi? Ve'yaakov, quant à Yaakov, Nassa, il voyagea, Sukota, à Sukot. C'est-à-dire, le lieu où se rend Yaakov après avoir envoyé Esav, c'est un lieu appelé Sukot. Vous voyez quelque chose qui ressemble. Ça, c'est-à-dire que l'histoire des Avot, c'est les antécédents des mitzvot. Mais alors, tiens donc, si c'est vrai tout ça, je ne comprends plus Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, lui, nous a dit que la soukha de plus de 20 coudées, elle est kshéra. Elle est bonne. Elle est valable. Non mais, quoi la majorité? Quoi? J'aimerais comprendre l'opinion de Rabbi Yehuda. L'opinion de Rabbi Yehuda me trouble. Pour tout vous dire, il n'y a aucune explication dans le Talmud de l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais, dans l'autre Talmud, le Talmud de Jérusalem, là-bas on nous explique que Rabbi Yehuda a appris son halakha, il l'a tiré du Beit HaMikdash. Dans le Beit HaMikdash, il y avait un plafond qui était haut de 60 coudées. Or, le Beit HaMikdash est appelé également Soukha. Dans le livre de Tehilim, Noda Biouda Elohim, Dieu est connu en Judée, Be Israël Gadol Shemo, en Israël son nom est le grand, Vayihi Beshalem Soukho, il a placé sa cabane à Shalem. Shalem, c'est le nom poétique de Jérusalem, Umeronato Betzion, sa résidence à Sion. Donc on voit que le Beit HaMikdash est appelé Soukha, or il est plus haut que 20 coudées, donc Rabbi Yehuda dit, pas de problème, la Soukha peut être plus haute que 20 coudées, comme le Beit HaMikdash. Ah bon? Alors, j'y comprends plus rien. Comment?
Il n'y a pas de problème à ce qu'elle fasse 20 coudées.
Si, d'après les Chachamim, c'est pas kasher. C'est Rabbi Yehuda.
Ils expliquent pas pourquoi.
Si, ils expliquent pourquoi. Il y a trois interprétations, celle de Rabba, de Rabbi Zera et de Rava. D'après Rabat, c'est parce qu'il faut avoir la connaissance du passé, d'après Rabbi Zera, la connaissance de l'avenir, et d'après Rava, la connaissance du présent. Vincoudé, ben, très simple. La connaissance du passé fait qu'il faut savoir que l'on est dans une soukha, la connaissance. Or, quand la soukha est plus haute que Vincoudé, je ne sais pas que je suis dans une soukha. J'ai l'impression d'être dans une maison. Tandis que Rabbi Zera, lui, il dit, il faut qu'il y ait de l'ombre, puisqu'on apprend ça de l'ombre du Olam Haba. Ah, le problème, c'est vin juste. C'est ça ton problème?
Oui.
Non, mais enfin, Rabbi Houda, oui, bon, Rabbi Houda, il dit que plus que vin, ça va aussi. Même peut avoir 100 coudées, 1000 coudées, il s'en fiche pas mal, Rabbi Houda. Lui, il est d'accord, on tire du Beth Amikdash que la soukha peut être plus haute que 20 coudées. D'accord? Quoi?
Le Beth Amikdash, dans ce cas-là, il tire au-delà que
Olam Haba. Ah ben voilà, le Beth Amikdash, c'est la soukha ultime. C'est la soukha du Olam Haba. C'est-à-dire, le Beth Amikdash n'est pas une réalité du Olam Hazeh en vérité. Le Beth Amikdash, si vous voulez, c'est une anticipation du Olam Haba qui s'est fixé dans ce monde, mais en fait, c'est extraterritorial, c'est comme une ambassade. Ce qui fait que il y a la fixité là-bas, c'est une soukha fixe, mais ce n'est pas la nôtre. Et tout le problème est de savoir à quoi est-ce qu'on est capable d'arriver. Est-ce qu'on est capable d'arriver dans la fête de Sukkot au sentiment d'être sorti de chez soi, et le chez soi c'est le Olam Hazeh, ou bien est-ce qu'on a le sentiment d'être arrivé chez soi, et donc le chez soi c'est le Olam Haba. Il y a deux manières de vivre le Olam Hazeh et le Olam Haba. Il y a ceux qui se sentent à l'aise dans le Olam Hazeh. Ils se disent, bon, un jour je quitterai ma maison, j'irai ailleurs, mais je me sens bien ici. Donc pour lui, la soukha ne peut pas être plus haute que 20 coudées. Tandis qu'il y en a qui se sentent bien, a priori, dans le Olam Haba. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, je suis en voyage. Je suis de passage dans le Olam Hazeh. C'est une autre manière de vivre le monde. Mais la fixité est dans le Olam Haba. Et donc, il ira selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui cherchera la soukha dans le Beth Amikdash. Vous avez compris? Maintenant, revenons au verset à propos de Yaakov Abinu. Oui. Ben oui, exactement. Tous les quatre, tu veux dire. Les trois qui interprètent l'opinion des Chachamim et Rabbi Yehuda qui parle du Beth Amikdash. Donc, il y a donc deux manières de vivre. Et revenons au verset concernant Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, notre ancêtre, hein, il dit comme ça. Vayelech Esav ayom haol darko seira. Esaü alla en ce jour dans son chemin vers Seir. Yaakov nasa sukota. Yaakov partit à Sukkot. Vayi venlo, il se construisit. Quelle est la suite du verset? Vous connaissez pas? Vayi venlo bait, il se construisit une maison. Ul miknehu a sa sukot, et à ses troupeaux, pour ses troupeaux, il a fait des cabanes. Alken karash et mamakom sukot, c'est pourquoi on nomme cet endroit sukot. Alors, ça dépend qui on est. Est-ce qu'on est comme Yaakov ou comme son troupeau? C'est-à-dire, ben oui, c'est ça, il s'est construit une maison. Ben, la maison de Yaakov, c'est Beth Amikdash. C'est son Beth Amikdash. Donc, pour lui, Rabbi Yehuda dit la halakha de Yaakov, et les Chachamim disent la halakha du troupeau. Ça dépend qui on est. Donc, c'est pour ça que vous avez deux sources, deux manières, deux opinions dans la halakha. Vous avez compris?
C'est pas une vraie marloquette, en fait.
Et, si, il y a une marloquette. La marloquette, elle est technique. C'est-à-dire, si j'ai fait une soukha plus haute que 20 coudées, Rabbi Yehuda dit c'est très bien, les Chachamim diront non, ça va pas.
Ça dépend pour qui.
En vérité, ça dépend pour qui. Mais la halakha ne peut pas tenir compte de ça. C'est-à-dire, la halakha dira, pour tout Israël, on fait la même chose. Mais ce que j'explique là, c'est l'origine de la halakha. Oui?
Comment elle est fixée, la halakha?
Ben, la halakha est fixée en fonction de la majorité du clan. Or, le troupeau, on va selon le troupeau. D'accord? Nous sommes comme le troupeau de Yaakov.
Suivre le troupeau, ça ne fait pas descendre.
Oui, ben oui, ben c'est notre niveau, il faut savoir qui on est. On n'a pas le niveau de Yaakov.
Il y en a qui n'ont peut-être pas le niveau de Yaakov, mais qui ont un niveau supérieur au troupeau.
Alors justement, il y en a qui sont au-delà du troupeau, alors peut-être que de manière exceptionnelle, la halakha admettra pour eux de dépasser les 20 coudées. Mais ça s'appellera une exception. D'accord? En tout cas, lui, Rabbi Yehuda, lui, il voit les choses en grand. Il voit la soukha. Il y a un midrash extrêmement troublant. Vous voulez un midrash troublant ou pas? Mais ça va vous troubler. Bon, tant pis. Il y a un midrash qui dit comme ça. Le midrash que je vais vous citer éveille au minimum une quinzaine de questions théologiques. D'accord ? Avant la création du monde, dit le midrash, Dieu a construit une soukka dans le mont du temple. Et il y rentrait pour y faire la prière. Il disait que ce soit un effet de ma volonté que mes enfants me construisent une maison dans cet endroit-là. C'est la logique même, n'est-ce pas, ce midrash? Bon, mais ce midrash ne prétend pas être logique. Il prétend exprimer une tendance. C'est quoi la volonté du Créateur dans la création du monde? Eh bien, il veut rencontrer sa créature. Et tant que ça ne s'est pas fait, c'est une soukha. C'est-à-dire, c'est une habitation précaire. Mais il veut que ça devienne une fixité. D'accord? À partir de là, toutes les questions théologiques sont secondaires. On essaie de comprendre quel est le projet. Le projet, c'est le projet de la rencontre avec la créature. Et donc la soukha préfigure cette rencontre. Vous comprenez maintenant pourquoi la soukha n'est pas forcément mon argent. Elle n'est pas forcément ma propriété. Parce que c'est une madriga qui n'est pas accessible dans notre monde. Vous avez compris?
C'est qu'elle est faite naturelle.
Comment?
C'est qu'elle est faite de matériaux naturels.
Non. Non, parce que le loulav aussi, il est fait de matériaux naturels. Donc c'est pas la raison.
Ouais, mais
le
loulav, ça peut
être une sorte de lien. Non, le justement, au contraire. Le loulav, c'est ce que j'ai réussi à acquérir.
Voilà, mais l'acquisition entre ça, le naturel, et le fait de l'acquérir, c'est le fait d'accepter entre les deux.
Il y a un rapport entre les deux. C'est pour ça que les kabbalistes font l'agitation du loulav dans la soukha. Ouais. Maintenant, les quatre espèces en question, elles sont des espèces vertes. C'est ça? C'est vert. Hein? Le etrog, c'est jaune. Oui, mais attention, le jaune est une sorte de vert. Oui, non, il faut savoir que la division en couleurs n'est pas la même dans la langue moderne et dans la langue ancienne. Par exemple, le jaune foncé est appelé par la Guémara rouge. Et le jaune clair est appelé par la Guémara vert. C'est-à-dire le jaune foncé et le jaune clair sont deux couleurs différentes, tandis que le jaune clair et le vert sont une seule couleur. D'accord? C'est du vert plus ou moins clair, le jaune. D'accord? Oui. C'est, oui, au chocolat. Donc c'est... Oui, non, c'est-à-dire que... En hébreu, ça s'appelle yarok. D'accord? Alors, l'or, la Guémara dit, l'or est rouge. Adam. Oui, l'or, c'est rouge.
Il
n'y
a pas de jaune.
Quoi? Non, alors le jaune, c'est... Oui, il y a parfois l'expression tsahov. Oui, mais c'est... Mais le tsahov, c'est une sous-classe de l'or. C'est du mot zahov, tsahov. Ça ressemble. De même que, par exemple, vous avez par exemple... Les Israéliens considèrent que le rouge et le bordeaux sont deux couleurs différentes. C'est-à-dire, si tu montres à un Israélien un objet de couleur bordeaux, il dira, mais c'est pas rouge. Tu dis, c'est rouge, ça va pas, non, c'est bordeaux. D'accord? Pour le français, le bordeaux est une forme de rouge. D'accord? De même, le bleu ciel et le bleu foncé. En français, ça appartient au bleu. N'est-ce pas? En hébreu, pas du tout. En hébreu, le bleu clair est appelé techelet, et le bleu foncé est appelé kahol, et pour un israélien, ce sont deux couleurs différentes. Vous avez compris? C'est-à-dire que, alors je reprends donc pour les couleurs des Arba Ataminim, tout ça c'est du vert. Même le jaune. Vous avez compris? Bon. Non, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que la langue a évolué, la manière de regarder le monde est différente selon les civilisations. Et donc c'est du vert. Mais c'est quoi le vert? Ben, le vert, c'est la couleur des plantes vivantes. Vous savez que, comment? De la vie, plus présent de la vie au sein du désert, les oasis. Vous savez que les Arabes ont une prédilection pour la couleur verte. Ils aiment le vert parce qu'ils sont originaires du désert. Et donc pour un habitant du désert, le vert, c'est le signe de la vie, c'est la réjouissance. Le Rambam, dans le Maïmonide, dans le Guide des Égarés, explique que lorsque l'on sort du désert, qu'on arrive en Eretz Israël, la joie d'Eretz Israël, c'est de prendre des plantes vertes. Donc, si vous voulez, Sukkot, c'est la fête de l'aboutissement. Pessah, c'est la fête de la sortie. Shavuot, c'est celle du milieu. Sukkot, on est arrivé. C'est la fête d'Eret Israël. Donc, c'est pour ça que tout se concentre autour du lieu central d'Eret Israël, qui est le Beth Amikdash, c'est-à-dire la fête mikdashienne par excellence, templienne par expérience, c'est la fête de Sukkot. Vous avez compris ? Bon. Oui ? Bon, oui, mais c'est pas seulement à Sukkot, c'est tout le temps ça. Bon. Donc, c'est tout le temps. Bon. En tout cas, donc, vous avez ici l'explication de la différence entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Oui.
Les deux premiers Beth Amikdash, c'était des
Sukkot. Oui, le Beth Amikdash est une Sukkah par définition. C'est-à-dire, le Beth Amikdash ne tient pas le coup. Oui, c'est-à-dire, c'est pour ça que le prophète nous dit Bayom Ahu Akim et Sukkah David Anofelet. En ce jour, je relèverai la Sukkah de David qui tombe. Alors, le Maharal de Prague explique que la Sukkah de David ne cesse pas de tomber. Elle monte, on la construit, puis tac, elle retombe. Parce que le Beth Amikdash n'est pas vraiment à l'aise dans ce monde. Tant que le monde n'est pas arrivé au niveau du Mikdash, le Mikdash est un peu étranger à ce monde. D'accord ? Oui ?
Il appartient à quelqu'un ?
Ben oui, il appartient à Kadosh Baruch Hu, c'est sa maison. Voilà, c'est sa maison.
Et pourtant, on a le droit d'y rentrer.
Ben, on est en rentrant en visite. On n'a pas le droit de s'asseoir là-bas.
Hein?
Oui, le Beth Amikdash, on ne s'assoit pas. Le seul qui a le droit de s'asseoir, c'est le roi de la dynastie de David. Là-bas, il est vraiment chez lui. Shifti bevet Hashem, je suis assis dans la maison de Dieu. Mais les autres, ils peuvent pas. Même un roi d'Israël ne peut pas. D'accord ? C'est par respect pour le roi. En présence d'un roi, on ne s'assoit pas. D'accord ? Et donc, revenons donc à notre histoire. Ce que l'on fait dans le Beth Amikdash, le jour de Sukkot, c'est d'agiter le loulav. C'est-à-dire, l'endroit par excellence où le loulav doit être agité, c'est dans le Beth Amikdash. Et il est composé, comme on a dit, de quatre plantes, n'est-ce pas ? Quatre plantes, dont un des quatre est un fruit. D'accord ? C'est des branchages, trois branchages, et un fruit. Le fruit en question, c'est quoi ? Le etrog. Ah, le etrog. Vous ne connaissez pas un peu l'histoire du etrog ? Comment ça a commencé ? En français, on dit un cédra. Hein ? Ben, le etrog, d'après le Midrash, c'est le fruit de la connaissance. C'est ça ? Le fruit de la connaissance. Et le fruit de la connaissance, il y a tout un problème. Est-ce qu'il faut le manger ou est-ce qu'il ne faut pas le manger ? Hein ? Regardez dans la Torah. Dans la Torah, c'est interdit ? On va voir. Je lis dans le livre de... Ah ben c'est très simple. C'est le seul arbre qui est, dont la branche a le goût du fruit. Or, Dieu dit à Adam Arishon, est-ce que tu aurais mangé de l'arbre ? Mina etz, à cher antique. Donc, tu as mangé de l'arbre, pas du fruit. De là, nous savons que c'était un etrog. Comment ? Il y en a qui se fichent de ma pomme. Mais, oui, la tradition chrétienne dit que c'était une pomme. Ah oui, il y a un midrash qui dit que c'était une figue. Il y a un midrash qui dit que c'était une vigne. Il y a un midrash qui dit que c'était du blé. D'accord ? Chacun des midrashim a un sens. Oui. Mais peu importe. Je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant. Chacun de ces midrashim cités a un sens, y compris d'ailleurs les habdil. La tradition chrétienne qui dit que c'était une pomme, ça a également un sens. C'est pas pour rien qu'ils ont dit ça, mais c'est pas notre sujet maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est l'opinion centrale dans le Midrash, comme quoi le fruit en question était un etrog. Soit dit en passant, dans la tradition indienne antique, le etrog est un fruit sacré qui est tenu en main par les dieux. Vous avez des inscriptions comme ça, ariennes antiques, vieilles de 3000, 4000 ans. On voit là-bas des dieux qui tiennent un etrog.
C'est quoi,
c'est avant, c'est nord de l'Inde. Voilà. En tout cas, bon, je peux continuer là. Ouais, j'aimerais bien. Alors, le etrog, c'est. Est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas ? Alors, la Torah nous dit. Tu as dit qu'on n'a pas le droit. Mais j'ai vu dans le livre de Bereshit. J'ai lu un peu dans Bereshit et j'ai vu qu'il y avait un verset dans lequel il est dit Vayetzav Hashem Elohim et Adam les morts, Dieu ordonna à l'homme en disant, Mikol Aitzaga Anachol Tochel, tu devras manger de tous les arbres du jardin. Donc tous les arbres du jardin, ça implique également l'arbre de la connaissance. Comme quoi il y avait une mitzvah de manger de l'arbre de la connaissance. Comment est-ce qu'on peut manger si on ne touche pas? Hein? Oui, de tout. Oui, de tout. Ça n'est pas obligé de manger tout le. Quand tu vois un arbre avec une vingtaine d'oranges, tu manges une orange. Mikol et Zayan. D'accord? De chacun des arbres, tu dois prendre. Donc il avait la mitzvah de manger également du fruit de la connaissance. Il n'y a pas écrit sof, justement. L'expression en hébreu sof, ça se dit chutz, ou milvad, ou ar, ou bien rak. Mais aucun de ces mots-là n'apparaît là-bas. Donc il avait le devoir, le premier homme, de manger de l'arbre de la connaissance. Donc qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Il y a une suite dans le verset, où me'etz adat tovara, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lotochal mimenu, tu n'en mangeras pas, donc contre-ordre, ki beyom acholcha mimenu motamut, car le jour où tu en mangerais, tu mourras. Alors, je ne comprends pas. Il y a un ordre de manger, il y a un ordre de ne pas manger, et après on me dit, parce que si tu en manges, tu meurs. Je ne comprends pas. Il y a un commandement positif et un commandement négatif. Quand il y a un commandement positif qui contredit un commandement négatif dans la halakha, qui c'est qui l'emporte? Le positif. Assez d'ochelota assez. Donc il avait le devoir de manger. Donc qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre?
Quand on a fini par le commandement négatif.
Et alors? Mais peu importe. La halakha, c'est que quand il y a un commandement positif et un négatif qui se contredisent, c'est le positif qui l'emporte. Oui, mais Kadosh Baruch Hu, il connaissait la halakha. Oui, alors qu'est-ce qu'il lui veut, le pauvre?
Juste un conseil.
Non. C'est qu'il lui dit, tu dois en manger, mais n'en mange pas tant que tu meurs, tant que ça te fait mourir. Donc il faut prendre. Donc le devoir était très simple, de prendre un antidote contre la mort, et alors il avait le devoir d'en manger. Qu'est-ce qu'il aurait dû donc manger? L'arbre de la vie. C'est-à-dire, la halakha, c'est qu'il doit commencer par l'arbre de la vie, après manger de l'arbre de la connaissance. Une fois qu'il a mangé de l'arbre de la vie, non seulement il a le droit de manger de l'arbre de la connaissance, il en a le devoir. C'est-à-dire, vous allez d'abord à la yeshiva, après on va à l'université. Ce n'est pas le contraire. C'est-à-dire, il faut d'abord se remplir des connaissances de la vie, et après de la connaissance, tout court. Or, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a cédé à la passion, à la tentation de l'intellectualisme. C'est ça le problème d'Adam Harishon. Il avait le plaisir de connaître, avant d'avoir acquis la vie. En français, on dit qu'il faut avoir une tête bien pleine, bien faite, plus, avant d'avoir une tête bien pleine. C'est ça. Comment?
D'abord bien pleine, après bien faite.
Non, bien faite d'abord. D'abord bien faite. Bien faite, c'est avoir, avec des valeurs. Il faut avoir des valeurs. Une fois qu'on a des valeurs, alors les connaissances ont un sens. Sinon, non. Et donc, Chava, notre ancêtre, elle a décidé que puisque c'était dangereux pour l'instant d'en manger, il ne fallait pas non plus y toucher. Donc elle est la première à avoir fait ce qu'on appelle une gezera midérabanan, un décret rabbinique autour de la mitzvah qui interdit non seulement de manger mais également de toucher. Oui. Ils vont manger de l'arbre de la vie.
Voilà,
oui. Manger de l'arbre de la vie après avoir mangé de l'arbre de la connaissance, c'est une catastrophe. Parce que ça voudrait dire rentrer dans l'éternité avec son péché. Donc ça serait irréparable. Alors il faut d'abord faire teshuva, il faut remourir pour remanger de l'arbre de la vie et après l'arbre de la connaissance. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu une première gzera, une interdiction rabbinique, qui interdisait de manger, enfin de toucher même de l'arbre de la connaissance. Maintenant, quand est-ce que ça s'est passé, cette histoire d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance? Hein? À Rosh Hashanah, n'est-ce pas? De là, il est chassé. Et qu'est-ce qui se passe après? Comment? Eh bien après, on mange de l'arbre de la vie. Quand? Hein? Quand est-ce qu'on mange l'arbre de la vie? C'est quoi l'arbre de la vie? C'est la Torah. C'est ce que dit le Etz Haimi la Mahazikimba, dit le roi Salomon. C'est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent. N'est-ce pas? Donc, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Hein? Pas du tout. Matan Torah, oui, mais ça c'est Kabbalat à Torah, j'ai demandé. À Kippour. Donc à Kippour, on a reçu, on mange de l'arbre de la vie, on reçoit la Torah. 10 jours après. Donc, à partir du moment où on a mangé l'arbre de la vie, on peut envisager de manger l'arbre de la connaissance. Mais il faut d'abord lever l'interdiction rabbinique. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? La Torah nous dit, à Sukkot, de prendre en main l'arbre de la connaissance. C'est le tikkun, c'est là que l'interdiction est levée, et donc on peut le toucher. Et on le mange quand? Alors la Mishnah nous dit comme ça, que le 7e jour de Sukkot, les enfants mordent, il y avait un mina comme ça, de mordre le etrog. Pourquoi les enfants? Parce qu'ils n'ont pas de péché. D'accord? Mais le minhag des juifs, c'est de faire de la confiture de cédra que l'on mange à Toubishvat. À Toubishvat. Allez. Toubishvat, c'est le premier an, c'est le nouvel an de quel arbre? Ha'ilan, de l'arbre, ben de l'arbre de la connaissance, évidemment. C'est là qu'il devient consommable. Vous avez compris? Il y a tout un processus dans le calendrier juif de réparation du péché. D'accord? Oui. Ah oui, oui, ça se fait graduellement, comme ça. D'accord? On répare. Comment? Si, elle est de plus en plus réparée. C'est comme un puzzle. Un puzzle, comme on dit en français. Ouais. D'ailleurs, c'est petit à petit, on rajoute une couche. Voilà. C'est, on en tient une couche. Ouais. Oui. L'arbre de la vie, c'est les valeurs. L'arbre de la connaissance, ben c'est les connaissances. Maintenant, remarquez une chose. Oui. Parce qu'on en connaît trop. C'est-à-dire, c'est comme si on avait des cadres et sans contenu. C'est une caisse vide. Une caisse vide, ça s'écrase. C'est comme si... C'est, oui, mais c'est que les connaissances, c'est comme des réservoirs. Mais il faut avoir quelque chose à mettre. S'il n'y a pas de source, à quoi sert la piscine? Exactement. Et ça peut également être la Torah. Maintenant, vous savez que il y a deux sens essentiels chez l'homme, la vue et l'ouïe. Tu vois? Les Grecs aiment la vue et les Hébreux aiment l'ouïe. Par exemple, quand nous faisons notre proclamation de Emouna, nous fermons les yeux et nous disons « Écoute ». N'est-ce pas? Shema Israël. Oui, quoi? Ils ont vu, et puis dans le livre de Devarim, ça c'est dans Shemot, mais dans Devarim il y a écrit vous n'avez rien vu. Alors vous décidez. Soit on a vu, soit on n'a pas vu. Ça dépend dans quel état on est. Si on est au moment de l'événement, il n'y a pas de danger à dire qu'on a vu. Mais si on est au moment d'en parler, alors il faut dire qu'on n'a rien vu. Et donc, il y a une hésitation, il y a une très grande, disons, prudence juive par rapport au visuel. Parce que le visuel entraîne l'idolâtrie. Et ça peut tromper, d'accord? Ça trompe l'œil. Mais, en vérité, nous savons qu'il y a une vue qui est une vue suprême, supérieure. C'est celle qui était acquise après s'être libéré du mal. La fête de Rosh Hashanah, c'est quoi la mitzvah à Rosh Hashanah? D'écouter et à Sukkot, de voir. Ben, le loulav. D'accord? Et on regarde, c'est-à-dire... La vue devient sanctifiée parce qu'on est passé par Kippour. Une fois qu'on est passé par Kippour, on est dans un monde parfait. Oui?
Juste pour vous dire, à quel moment les âmes ont la culture ou en
la culture? À Toubishvat. C'est un problème existentiel qui revient à Hamlet. Toubi or not Toubishvat. Oui? Et donc, petite remarque importante. La fête de Sukkot, comme vous le savez, commémore les soukottes dans lesquelles on a résidé en sortant d'Égypte. C'était à quel moment de l'année qu'on est sorti d'Égypte? À Pessah, n'est-ce pas? Donc, soukottes, si vous voulez, c'est la moitié de Pessah qui est déplacée vers l'automne. Mais en vérité, c'est la fête de Pessah. C'est un demi-Pessah. La fête de Pessah est coupée en deux. En vérité, on devrait faire des soukottes le soir du Seder. Pour des tas de raisons que nous n'avons pas le temps maintenant d'élucider, la Torah a déplacé de 6 mois la moitié de la fête. La moitié de la fête de Pessah est déplacée vers l'automne. C'est-à-dire, on mange des matzot à Pessah et on est dans la soukha à Soukot, en mangeant du hametz. D'où d'ailleurs la mitzvah de manger un kazaït de pain le premier soir de Soukot, comme à Pessah on mange le kazaït de matzah. Ça doit être mangé dans la soukha, oui. C'est la même chose. Sortir d'Égypte, c'est rentrer dans le Betamikdash. Maintenant, il y a combien de jours dans la fête de Pessah? Combien? Il y en a 8. 7 qui se font en Nissan et le 8e qui se fait à Shavuot. C'est-à-dire que le 8e jour de Pessah est déplacé. Il va très loin. 7 semaines de différence, 50 jours. Pourquoi est-ce que le 8e jour de Pessah est déplacé de 50 jours? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'impureté d'Égypte. On ne peut pas recevoir la Torah tant qu'on est lié à l'impureté d'Égypte. Donc, le 8e jour de Pessah est déplacé. Combien de jours y a-t-il à Soukot? 7. 7 pendant lesquels on est à Soukha. Et le 8e jour, c'est quoi? Eh bien, c'est Simchat Torah. C'est comme Shavuot. On reçoit la Torah. Et la gestion de la Torah. Mais avec une différence, c'est que c'est collé à la fête. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde dans lequel il n'y a plus d'impureté puisqu'on a passé par Kippour. Donc, le 8e jour de la fête peut être collé à la fête. D'accord? D'où la différence entre Matan Torah et Simchat Torah. Matan Torah, c'est quelque chose qui nous est imposé, tandis que Simchat Torah, c'est quelque chose que l'on accepte avec joie. Vous avez compris comment ça marche? Donc, si vous voulez, le but des fêtes du calendrier juif, c'est la fête de Simchat Torah. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Pendant la fête de Pessah, je finis tout de suite pour Darab Partouche. Pendant la fête de Pessah, c'est une belle fête, mais on ne mange pas de pain, ce qui est assez pénible. La fête de Shavuot, on arrive à un stade où on peut manger du pain, mais on ne dort pas de la nuit. À Rosh Hashanah, on mange du pain, on dort la nuit, mais on est dans le tremblement permanent à cause du jugement. Arrive Kippour, on ne mange rien. Soukot, on peut enfin manger du pain, on peut dormir, mais on n'est pas chez soi. On est jeté de la maison. Alors, il y a un jour finalement, à Simchat Torah, on mange du pain, on dort la nuit, on est chez soi, il y a la joie, alors on danse toute la journée. Vous avez compris donc que l'aboutissement des fêtes juives, c'est la fête de Simchat Torah, qui est la clôture réussie de l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.